Et c'est pour ça qu'on a décidé de créer le CRIREM. Alors, il y a des scientifiques et on a voulu élargir. C'est-à-dire, il n'y a pas que des scientifiques français, il y a des scientifiques étrangers. Et lorsque j'étais députée à l'Assemblée nationale, j'avais organisé un colloque. Et on a eu un mal fou à trouver des experts scientifiques
un
français.
Un colloque sur cette question.
Un colloque sur la téléphonie mobile, ouais. Oui. Qui était dans le cadre du groupe santé avec tout parti politique confondu. Et on avait eu un mal fou à trouver des scientifiques français qui n'étaient pas de près ou de loin liés aux opérateurs. Parce que soit on avait des scientifiques qui étaient pleins de certitudes, c'est-à-dire pareil, vous voyez, comme le professeur Pellerin à l'époque en 86, il n'y a pas de problème, on peut y aller, et puis lorsqu'on leur demande des études, il n'y en a pas. Ou alors des scientifiques qui sont financés par les opérateurs pour faire leurs recherches. Et là, moi, j'ai un fort doute. Et lorsqu'on a invité des professeurs étrangers comme le professeur Carlo ou le professeur Highland, eh bien, eux étaient très, très sceptiques.
Ils sont donc des professeurs britanniques ?
Britanniques et américains. Ils nous disaient, faites attention, au niveau notamment des mobiles, il ne faut pas donner des mobiles à des jeunes enfants parce que leur crâne est beaucoup plus étroit et un enfant n'est pas... Un jeune adulte, c'est un être en développement. Et il s'avère que les rayonnements, comme disait M. Sandrier, c'est des micro-ondes, les rayonnements dus à la téléphonie mobile. Vous voyez, on est dans les hyperfréquences. Et en même temps, c'est des pulses, on appelle ça des pulses qui peuvent traverser justement le cerveau. Et on voit bien qu'une étude qui a été faite, par exemple, par le professeur Gandhi, eh bien, chez les enfants de 5 ans, ça traverse pratiquement le cerveau. Chez les enfants de 10 ans, un peu moins. Chez les adultes, encore un peu moins. Donc, on voit bien que, vous voyez, en fonction de l'individu, il n'y a pas les mêmes effets. Il n'y a pas déjà le même passage physique. Et puis, d'autres études, notamment faites par les Hollandais, ont montré qu'avec la nouvelle téléphonie comme l'UMTS, par exemple, eh bien, on a des troubles qui sont de plus en plus rapides, justement les troubles cognitifs. Et lorsqu'on écoute les gens qui sont près des stations relais, par exemple, je pense à la seule étude à peu près qu'a fait le professeur Santini, où il avait fait des questionnaires à proximité des stations relais, il s'était aperçu que les gens étaient en mal d'être, c'est-à-dire qu'ils avaient soit des insomnies, soit des troubles de mémoire, soit des maux de tête très importants, etc. Et lorsqu'ils partaient de leur appartement qui était soumis au rayonnement électromagnétique de la station relais, ça disparaissait. Donc tout ça, pour moi, c'est des indices qui montrent qu'il faut aller beaucoup plus loin au niveau des recherches et qu'on ne peut pas dire, comme je l'entends à l'heure actuelle par les opérateurs, il y a un consensus scientifique pour dire qu'il n'y a pas d'effet. Ça, c'est faux. Quand on regarde de près, et c'est des objectifs du CRIREM, c'est informer, regarder toutes les études, voir les études qui montrent qu'il y a des effets, des études qui montrent qu'il n'y a pas d'effets, mais regarder ça de plus près, on s'aperçoit que sur les effets biologiques, il y a des effets, que ce soit sur l'aspect membranaire, sur l'aspect hormonal, sur l'aspect immunitaire. Sur les effets sanitaires, il y a certains pays comme la Suède qui ont suffisamment de recul parce qu'ils ont utilisé la téléphonie mobile bien avant nous. Là, il y a des effets au niveau des nerfs auditifs, notamment au niveau de ce qu'on appelle une neurinome, une tumeur au niveau du nerf auditif.
Bon, qui se déclenche au bout d'une dizaine d'années, voilà. Enfin, qui a plus de risques de se déclencher au bout d'une dizaine d'années d'utilisation des portables.
Et puis on s'aperçoit que maintenant les opérateurs, j'ai souvenir du responsable de Buy qui me disait, nous, on ne demande pas à ce que les parents achètent un téléphone jusque... pour des enfants en deçà de 14 ans. Et alors c'est curieux que maintenant les opérateurs commencent à dire ça, et puis ils publient dans le cadre d'une revue de la FOM, hein, c'est-à-dire l'Association française des opérateurs mobiles, ben, votre enfant et la téléphonie mobile, guide à l'usage des parents. Comment acheter un portable à des enfants? Et ça, juste avant Noël. Vous voyez, c'est quand même curieux. Il y a deux poids, deux mesures.
Il y a deux poids, deux mesures. Corinne Lepage, il doit y avoir un cadre réglementaire, législatif, j'imagine.
Il y en a un, mais il n'est pas satisfaisant du tout. Et ce que vient de dire Michel montre bien qu'en réalité, je crois qu'il faut prendre les problèmes de manière très différente. Il ne s'agit pas aujourd'hui de dire à tous les gens, vous arrêtez d'utiliser votre portable. Et de tomber dans cette espèce de folie qui consiste à dire que les gens qui, comme Michel Rivasi, moi-même et quelques autres, soulevons des questions que nous estimons bonnes, sont des gens qui sont des obscurantistes et veulent revenir à des temps passés. Au contraire, je crois que nous avons une vraie conscience de ce que doit être une société de confiance et une société qui est capable de gérer intelligemment l'incertitude scientifique. Parce que c'est finalement ça la question qui est posée. Et derrière, les affaires de radioactivité, les affaires d'OGM, les affaires de basse fréquence, demain des nanosciences. La grande question qui est posée à nos sociétés contemporaines, c'est comment gère-t-on l'ignorance scientifique avant même l'incertitude scientifique.
Alors, ce qui est assez fascinant, me semble-t-il, c'est que la réponse qui est donnée, c'est toujours systématiquement une réponse en termes de dose.
Oui, mais c'est pas le... On se rend compte d'abord que la réponse en termes de dose est une réponse qui, a priori, ne peut pas être exacte dans la mesure où, un, tous les individus d'âge adulte ne réagissent pas de la même manière, et deux, tous les individus ne sont pas d'âge adulte. C'est-à-dire qu'il y a dans nos sociétés des gens plus fragiles, qui sont les enfants ou les personnes âgées, et on sait très bien que vous avez des gens qui vont fumer 5 paquets de tabac par jour et qui ne vont pas avoir de cancer du poumon, et d'autres qui vont fumer 10 cigarettes et qui vont en avoir un. Donc, partir de l'idée qu'on est tous pareils et qu'on peut tous supporter la même chose est déjà une hérésie. Deuxièmement, on se rend compte... Et toute l'histoire, il suffit de regarder l'histoire de la normalisation au cours de ces 20 ou 30 dernières années, a montré que l'histoire va toujours dans le sens d'une réduction massive des doses qui étaient considérées comme acceptables au départ. Tout simplement parce que la connaissance progressant, on se rend compte qu'il y a des effets que l'on n'avait pas vus ou pas prévus et... Dernièrement, une étude européenne remet complètement par terre tout le système de normes en matière de radioactivité. C'est pas pour ça, mais c'est pour la radioactivité. Pourquoi ? Et je crois que c'est un très bon exemple. Parce que, comment ont été calculées les normes en matière de radioactivité ? Elles ont été calculées à partir d'accidents. Et cette étude qui a été faite au sein de l'Union européenne et qui a été faite sur des végétaux et des petits animaux qui ont été soumis à des rayonnements de faible dose, hein, montre qu'il y a des réactions. Il y a des réactions de niveaux divers, mais dès les très faibles doses. Donc on se rend compte que tout le système qu'on a mis en place doit être revu. Et c'est l'Institut de radioprotection et sûreté nucléaire lui-même qui le dit il y a une quinzaine de jours. Ce qui veut dire que si on veut, et je reviens à cette idée de société de confiance parce que je crois que c'est essentiel et dans bien des domaines. Si l'on veut être dans une société de confiance, il est absolument indispensable d'abord de dire la vérité, c'est-à-dire y compris quand on ne sait pas, et non pas avoir toujours l'air de regarder les autres comme des imbéciles parce qu'ils posent des questions. Et deuxièmement, trouver les moyens qui permettent d'une part de faire toutes les recherches nécessaires. Et le principe de précaution, c'est d'abord un principe de recherche, c'est pas un principe d'abstention, c'est un principe d'action dans le domaine de la connaissance. Et troisièmement, de prendre les normes qui, effectivement, sont les plus protectrices possibles compte tenu des techniques disponibles. Or, pour en revenir à la téléphonie mobile, on est très loin de cela, puisque la France est un des pays qui a les normes les plus laxistes dans ce domaine. Ça, les Français ne le savent pas nécessairement.
Michel Rivasi, vous vouliez intervenir ?
Oui, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Corinne, parce que le problème, c'est qui établit les doses. Et là, on voit qu'il y a une convergence au niveau des doses. Que ce soit dans le domaine du nucléaire, que ce soit dans le domaine des OGM, que ce soit dans le domaine de la chimie, que ce soit dans le domaine des rayonnements électromagnétiques, et notamment dans ce domaine-là, on s'aperçoit que c'est des commissions internationales de protection radiologique contre les rayonnements non ionisants. Et dans le nucléaire, c'était la CIPR, la Commission internationale de protection radiologique. Or, on s'aperçoit que ces gens-là sont souvent, de près ou de loin, liés au lobby. Ce qui fait qu'il leur faut des normes qui ne contraignent pas trop les industriels pour sortir leurs produits. Et c'est vrai que chaque fois, quand la recherche a mis des effets, ils ont diminué les doses. Au niveau de la France, concernant les doses, par exemple sur la téléphonie mobile, on s'aperçoit qu'on a des doses de 41 volts par mètre pour les 900 MHz en fonction de la téléphonie mobile, ou les 1800, ou les 2200, vous voyez, on est à 61 volts par mètre, et que la plupart des pays européens ont dit « mais c'est trop important parce que ça touche que les effets thermiques ». C'est-à-dire les effets, vous voyez, qui sont liés à l'augmentation de température. Mais pas du tout les effets athermiques, ce que disait M. Sandrier sur le fait que ça peut perturber le fonctionnement du cerveau qui fonctionne justement avec une fréquence, enfin des fréquences particulières concernant les rayonnements électromagnétiques.
Et donc ça le perturbe sans que ça soit sensible d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas de réchauffement, il n'y a pas de douleur, il n'y a rien du tout.
Alors, sauf sur le...
Sur le cerveau, le, oui. Vous pouvez faire cuire le cerveau, il ne sent rien. C'est les tissus qui l'entourent, donc notre peau, qui finit par ressentir cet effet de chaleur. Les gens qui utilisent beaucoup le téléphone portable le sentent.